L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital.
Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de l'immobilier dans le bon sens et je reçois aujourd'hui David Mier. Salut David.
Salut.
Donc David Mier qui est le fondateur de Ville Vivante, qui est une solution pour lutter contre le manque de foncier, l'étalement urbain et surtout pour essayer de construire la ville de demain. Un vaste sujet, une vaste ambition. Déjà un peu pour commencer et amener le sujet, est-ce que tu peux un peu te présenter, parce que je crois que ça fait presque 10 ans que tu as monté Ville Vivante, un peu ce qui s'est passé avant, quelles ont été un peu tes conclusions qui t'ont amené à monter cette solution?
L'idée de Ville Vivante est assez simple, c'est qu'on sait depuis quelques années maintenant qu'il faut qu'on arrête de développer les villes en extension urbaine. En extension urbaine, c'est la façon dont on a fait ces dernières décennies pour loger les nouveaux ménages. En fait, on est allé chercher des terrains à l'extérieur des villes actuelles, donc en mangeant sur les forêts, les terres naturelles, les terres agricoles. De plus en plus loin, donc ça a produit les infrastructures, les bouchons du matin, des temps de trajet qui sont un peu subis par les gens. Et donc on arrive aux limites de ce système. Il y a des problèmes environnementaux aussi qui sont liés à cet étalement urbain. Et donc on sait à peu près depuis une vingtaine d'années qu'il faudrait qu'on arrive à faire ce qu'on appelle la ville sur la ville. C'est-à-dire venir construire de nouveaux bâtiments là où les terrains sont déjà bâtis, où il y a déjà des voisins, déjà des occupations, déjà des fonctions. Donc c'est forcément plus complexe de construire dans la ville existante que sur des terrains vierges. Ces choses progressent. Depuis quelques temps, on parle de zéro artificialisation nette. Ça veut dire que la contrainte réglementaire sur l'arrêt de la consommation des terres naturelles et agricoles, elle va devenir très forte. Et on voit déjà depuis une dizaine d'années que les terrains sur lesquels il est possible de construire deviennent rares. Et ils deviennent rares justement dans les territoires où on a besoin de construire parce qu'on a besoin d'accueillir des fonctions, des activités et aussi du logement. Donc ça, c'est le contexte.
Et bon, ça, c'était le contexte déjà, en fait, en 2009,
C'est-à-dire qu'en 2009, on le voyait déjà, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est en train de devenir une crise. C'est très critique. Si on n'a pas de foncier constructible, on ne peut pas construire de logement. Si on ne peut pas construire de logement, il y a une forme de pénurie. Souvent, ce qu'on a du mal à voir, c'est pourquoi est-ce qu'il faut construire du logement neuf. On s'est dit, ça se trouve, il y a déjà suffisamment de logements. Il y a des logements qui sont vacants. On en a beaucoup parlé pendant les élections municipales il y a 2 ans. En fait, tous les ans, le besoin de logement augmente parce que vous avez les enfants que vous avez éduqués à la maison. Tout d'un coup, ils deviennent autonomes et ils partent du logement. Et donc là, vous aviez 4 personnes qui vivaient dans une maison. Il n'y en a plus que 2. Et les 2 grands étudiants, ils vont chacun trouver un logement étudiant dans une coloc. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure que la vie évolue, le nombre de ménages augmente. On a les naissances, on a des soldes migratoires positifs. Il y a la côte ouest du pays qui attire beaucoup de monde. Il y a certaines grandes villes qui sont dynamiques, qui attirent du monde. Et donc, tous les ans, en fait, une ville, si elle veut pas perdre d'habitants, il faut qu'elle construise du logement neuf. Le foncier devient de plus en plus rare et au fur et à mesure que les derniers fonciers faciles à bâtir ont été consommés, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il nous en reste qu'un seul, c'est celui qui appartient aujourd'hui aux particuliers, c'est-à-dire le propriétaire d'une maison et son jardin qu'il a acheté il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Ils sont très nombreux. Il y a 20 millions de maisons individuelles qui sont bâties en France avec leur jardin. Taille moyenne de jardin, c'est 800 000 mètres carrés en France. Ça veut dire que très facilement, on peut s'imaginer construire une deuxième maison sur une partie du jardin. Donc voilà un peu le principe de base. Une idée qui est très simple à imaginer, très complexe à réaliser en réalité. Voilà. Et donc notre travail, c'est d'aider les villes, les collectivités et les particuliers à travailler dans le même sens pour que des gens qui ont un jardin trop grand à entretenir puissent valoriser une partie de leur foncier et que d'autres, ceux qui cherchent à bâtir, ceux qui cherchent à vivre proche de leur emploi, proche des équipements et des services, ils puissent trouver l'opportunité de construire. Donc voilà.
Ok, donc ça veut dire que dans certaines villes ou dans une grande majorité des villes, on veut arrêter d'étaler effectivement les constructions ou alors il y a effectivement peut-être plus de place pour construire. Donc là, on va faire appel à l'existant. Donc l'existant, comme tu disais, c'est les particuliers qui ont aujourd'hui du terrain. Et donc qui est à l'initiative des discussions? Est-ce que c'est les mairies qui vous dites mince, je peux plus construire, il faut me trouver une solution? Ou c'est vous qui allez voir alors les villes, les agglos, etc., en leur disant, écoutez, on a une nouvelle solution à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, c'est de faire construire sur l'existant dans la ville?
Alors ça marche dans les deux sens. Les villes, elles sont tout le temps en train de planifier leur développement. de rédiger leurs règles d'urbanisme et d'essayer d'anticiper à 5 ans, à 10 ans, pour leur politique d'équipement, pour la construction des écoles, pour les infrastructures de transport, ils sont obligés de prévoir. Et quand elles prévoient, elles regardent les ressources foncières qu'il leur reste et elles voient qu'il n'y en a plus beaucoup. Et inversement, nous, on essaye de distiller cette idée qui était peu présente dans l'esprit des gens, qui est que plutôt que de construire dense d'un coup, donc typiquement raser une ou deux maisons et mettre un immeuble à la place, en fait, il y a d'autres formes de solutions plus douces, plus progressives, peut-être plus acceptables par le voisinage, en fait, qui consistent à ne pas rassembler tous les nouveaux logements dans un seul endroit, sur une seule parcelle, mais à les distribuer en fait, dans les parcelles existantes. Donc nous, on vient aussi à la rencontre des collectivités pour leur montrer que ce potentiel existe et qu'il y a des modes opératoires qu'on peut mettre en œuvre. On a trouvé des premiers partenaires, certaines villes en France qui ont voulu se lancer. Alors, dans ces villes, il y avait, je prends par exemple la ville de Périgueux, qui a été la première en Dordogne, 30 000 habitants. Elle est vraiment sur un territoire qui est tout petit, il n'y a plus de foncier depuis longtemps, et les familles ont plutôt tendance à s'installer à 5, 10 ou 15 km autour, puisqu'il y a une relative abondance de terrain disponible et relativement grand. Donc vous pouvez habiter à 20 minutes de voiture du centre de Périgueux assez tranquillement. Et donc la ville finit par concentrer les personnes âgées, les jeunes, les étudiants, et ne pas être en capacité d'accueillir les familles. Donc se retrouve avec des problèmes d'école, par exemple. Et donc à cette ville, on leur a proposé de mettre en place un service destiné à tous les propriétaires d'une maison et d'un terrain, pour leur permettre de visualiser, d'imaginer ce qui était possible de faire sur leur terrain. Une ville comme Périgueux, c'est 6000 maisons, des terrains qui sont déjà relativement petits, qui datent, c'est des lotissements qui datent du fin 19e siècle, début 20e siècle. On est sur des parcelles qui font 300, 400, 500 mètres carrés. Le potentiel n'est pas si évident que ça. On pourrait se dire, ciblons les grands terrains et allons à la rencontre des particuliers. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut créer la possibilité pour ceux qui pourront en avoir besoin à un instant et pour différentes raisons de recourir à un service bien fait pour comprendre ce qu'il est possible de faire d'un point de vue réglementaire, imaginer comment ça pourrait se passer d'un point de vue architectural, sur la volumétrie, sur la parcelle, par où pourrait rentrer la deuxième personne, où est-ce qu'elle ouvrirait ses fenêtres, on verrait quoi, est-ce que l'intimité serait préservée. Toutes ces questions qui sont plutôt bloquantes au moment où l'idée pourrait germer dans l'esprit des gens, en fait, il faut être capable d'y répondre au moment où les questions se posent. Le moment où les questions se posent, c'est quand l'âge vient et que ça commence à devenir difficile l'entretien de la maison, par exemple. C'est quand des personnes se disent que la maison dans laquelle ils ont vécu quasiment toute leur vie, avec quelques marches pour aller au rez-de-chaussée, un étage, des chambres à l'étage, commence à devenir un peu problématique dans son organisation. Quand vous avez 60 ans, 65 ans, 70 ans, vous vous dites « Est-ce que je vais rester comme ça dans une configuration à l'étage toute ma vie ?» Des gens qui recherchent, qui se disent « Peut-être que je vais me trouver un plein pied. » Ils veulent rester en maison, ils recherchent un plein pied à Périgueux. On voit que dans l'ancien, il n'y en a pas. Et ils vont aller jusqu'à l'idée de se dire « En fait, c'est dans mon jardin que je vais le construire, ce plein pied. »
C'est-à-dire que lui, là, dans cet exemple-là, il construirait sur un petit bout de la parcelle la maison qui lui correspond et il vendrait la maison dans laquelle il est.
Exactement. C'est ça ? Ouais.
D'accord, parce qu'il veut rester à cet emplacement-là, parce qu'il a ses habitudes, parce que le jardin, il le connaît.
Qu'il connaît ses voisins, parce qu'il connaît la rue, parce qu'il a ses habitudes, parce que c'est pratique et parce que le foncier, il le possède déjà. Et donc, il n'a qu'à financer les coûts de construction. Et donc, il se retrouve sur une opération patrimoniale qui est intéressante et qui fonctionne bien.
Voilà. Et donc, ça veut dire qu'à l'inverse, il va vendre la maison dans laquelle il est et le bout de foncier qui correspond, je sais pas, à la moitié du jardin ou deux tiers, un tiers, c'est ça ?
Voilà. Le bout de foncier, il va le garder, il fera bâtir sa maison, il va faire un pré-relais pour financer l'entre-deux. Et il va se retrouver avec sa maison sur mesure, de plein pied. Il a déménagé chez lui dans son jardin. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres gens qui cèdent un bout de terrain à des jeunes qui, eux, font bâtir. Donc, ils sont tout contents de trouver un terrain en centre-ville. Et avec le produit de la vente, ils vont financer les travaux de rénovation, d'adaptation, de reconfiguration de la maison, par exemple, ou d'autres projets personnels. Vous avez des personnes qui, au moment de vendre, se disent « Est-ce que je le vends en un lot ou est-ce que je le vends en deux lots ?» Et qui vont se rendre compte qu'en fait, en deux lots, le bien a une valorisation plus intéressante qu'en un lot. Et en même temps, on va répondre aux besoins de deux personnes plutôt qu'un.
D'accord. Et ça, mais du coup, pour vous, c'est en fait à chaque fois, c'est du sur-mesure. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit en fonction de qui habite sur le terrain, de la taille du terrain, de l'accessibilité du terrain, du prix du terrain. Vous êtes obligé d'aller voir et de créer un peu la solution pour cette parcelle-là.
Alors, la configuration spatiale et physique, elle est sur mesure. Les terrains sont différents. Les maisons ne sont pas implantées au même endroit. Elles n'ont pas ouvert leurs fenêtres au même endroit. Donc clairement, ensuite vous avez des règles d'urbanisme qui s'appliquent sur ces parcelles, des coefficients d'emprise au sol, des coefficients de pleine terre. Il y a des endroits qui ne doivent pas être construits pour que le sol soit perméable. Des retraits que vous devez respecter par rapport aux limites séparatives du voisin, par rapport à la rue, des règles d'accès et de stationnement. Donc tout ça, des parcelles différentes, des maisons différentes, vous appliquez toutes ces règles. C'est un petit travail technique assez fin qui prend quelques heures pour regarder les options possibles. Est-ce qu'il y a la possibilité d'ajouter 60 mètres carrés, peut-être 80, peut-être 120, avec étage, sans étage, de plein pied, en accédant par où, etc. Donc, apparemment, d'un point de vue technique, c'est assez subtil. Ça se mélange avec du code civil, du droit public sur le règlement d'urbanisme. Et puis après, vous avez l'autre élément qui est un peu sur mesure, qui n'est pas tant la partie technique du projet que la partie patrimoniale et la situation dans laquelle sont ces personnes. Vous avez des gens, par exemple, qui pensent à leurs parents. Mamie, qu'est-ce qu'on fait? Elle commence à devenir dépendante. Est-ce qu'on l'envoie à une maison de retraite? Il y a des gens qui finissent par avoir l'idée de peut-être construire un 60 mètres carrés de plein pied pour accueillir la grand-mère dans le jardin. Ils font les calculs. 2, 3 ans, 4 ans de maison de retraite. Vous financez une très belle construction sur un terrain que vous possédez déjà. C'est peut-être parmi les frères et sœurs de la fratrie, une des sœurs les plus entreprenantes qui va le proposer à sa maman. Ça veut dire qu'on finance la construction sur un terrain qu'on a déjà, donc elle appartient à une des sœurs. C'est peut-être la mamie qui va payer un loyer à sa sœur. Et dans ce cas, ça veut dire qu'elle est en train de constituer un patrimoine pour une de ses filles. Donc il faut régler la question de l'équité dans la fratrie. Et peut-être même qu'il peut y avoir une SCI familiale qui peut se monter. Il y a également, dans la partie sur mesure, la situation patrimoniale dans laquelle sont ces propriétaires de maison et la situation patrimoniale plus largement de la famille. Il y a des gens qui vont le faire pour leurs enfants. Vous avez la rareté du foncier qui a fait monter les prix. Les parents ont pu le faire. Des enfants qui ont fait de meilleures études, qui ont des meilleurs revenus, ils n'arrivent pas à devenir propriétaires là où les parents ont réussi il y a 20 ans, il y a 30 ans. Une des solutions, c'est de céder un bout de terrain à ses enfants. Alors, je pense que c'est jamais le rêve de départ de vivre les uns à côté des autres. Quand on voit ce que coûte un foncier dans les grandes villes, c'est très rapidement 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 euros le terrain. Ça fait réfléchir à l'idée d'être voisin avec ses parents. Donc céder, c'est pareil, vous cédez un terrain au fils, la fille, elle est déjà installée, il faut organiser le patrimoine, il faut organiser l'équité, il faut organiser la discussion. Ouais. Donc chaque situation est spécifique d'un point de vue urbanistique, architectural, les parcelles ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas orientées pareil. Il y a des parcelles dans lesquelles on rentre par le sud, c'est-à-dire que en fait, la partie sud du jardin correspond à l'accès, le côté sur rue, d'autres c'est l'inverse. Donc tout est sur mesure. On peut faire avec un peu de data, un peu d'intelligence artificielle, on peut un peu filtrer, comprendre le potentiel, répondre à la question du maire, ces jardins des particuliers, ils peuvent me faire combien de maisons par an et pendant combien d'années? Au bout de combien d'années, j'ai épuisé le potentiel.
Et généralement, ça, c'est l'initiative du coup des mairies qui vont sonder leurs habitants en disant qui serait intéressé par une solution pour diviser son foncier, vendre son foncier, construire, etc. C'est lui qui a la manette.
Les mairies, elles vont faire la réflexion, la planification, poser des objectifs, combien de logements il faut construire dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent. Ensuite, c'est elles qui sont responsables de l'écriture des règles d'urbanisme, c'est-à-dire pour chaque propriétaire, les règles définissent ce que vous avez le droit de faire sur le terrain que vous possédez. C'est un peu étrange, mais le terrain que vous possédez, en fait, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez dessus.
Et d'ailleurs, quand on vend un terrain, un bout de parcelle, la mairie est prioritaire pour acheter ou on peut le céder à ses enfants sans avoir ce risque de préemption?
La mairie peut avoir un droit de préemption. Maintenant, elle l'exerce dans des cas très rares.
J'imagine qu'elle demande ce qui va se passer, quel est le projet.
Voilà, elle est toujours informée de la vente. Mais les préemptions sont très rares. On va dire. Là, on est dans des quartiers qui sont des tissus d'habitat individuels. On n'est pas pile à la sortie de la future station de métro du Grand Paris, on est dans le tout venant, c'est-à-dire ce qui est quand même les surfaces dominantes en fait résidentielles aujourd'hui sont des tissus d'habitat individuel. C'est eux qui ont consommé l'espace ces dernières années, quoi.
D'accord. Et si on prend un exemple, par exemple, moi j'ai une maison à Périgueux avec un jardin qui fait 1000 mètres carrés. La mairie de Périgueux m'appelle et me dit voilà, il y a un concept qui s'appelle Ville Vivante. Si vous voulez céder un bout de votre parcelle, voilà ce qui peut se passer. Ensuite, j'imagine il y a quelqu'un de chez vous qui passe, qui fait son audit, qui fait ses recommandations, ses conseils. Sauf qu'après, je vais dire, c'est pas moi qui vais construire la maison. Donc, est-ce que après vous prenez la main sur toute la partie permis de construire, travaux, suivi de chantier, etc.
Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on ne cible pas les parcelles. C'est-à-dire que l'ordre de grandeur qu'on peut retenir, c'est que à un instant T, en 2022, si vous avez 100 maisons dans un quartier, il y a peut-être un propriétaire ou deux qui va construire sa deuxième maison dans son jardin. C'est-à-dire 1 ou 2%. Avec 1 ou 2%, en fait, le stock est tellement grand qu'on est déjà sur des volumes de production intéressants. À Périgueux, avant qu'on intervienne, il y avait 3 ou 4 terrains à bâtir chaque année, en fait, qui étaient disponibles justement par division, des gens qui faisaient déjà leur opération. On a mis en place une opération avec un service ouvert à tous les propriétaires, non ciblé, avec la proposition qui est ceux qui ont envie de savoir ce qu'il est possible de faire, ceux qui ont envie d'avoir, de pouvoir visualiser les possibilités qu'ils pourraient avoir. Si vous demandez qui est intéressé, il n'y a pas grand monde en fait qui a suffisamment réfléchi à la question pour vous dire oui. Par contre, si vous posez la question, en fait, qui a envie de savoir, là vous avez plus de monde. Et puis ensuite, ce qu'il faut, c'est être disponible au moment où les gens, en fait, ont besoin de le faire, ont besoin pour financer un projet personnel, pour aider un proche, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils se sont rendus compte que la maison dans laquelle ils vivaient pendant les confinements n'était pas la bonne, n'était pas assez lumineuse, n'était pas assez grande, n'était pas voilà configurée comme ils le souhaitaient. Et donc c'est la question est plutôt d'être disponible et présent au moment où la réflexion arrive dans l'esprit des personnes. Ensuite, on accompagne cette réflexion et à un moment, effectivement, on s'aperçoit que la solution, c'est de construire la deuxième maison, de vendre un bout de terrain. On va aider ces personnes à obtenir les autorisations d'urbanisme. Un terrain, pour qu'il soit constructible, en fait, il faut que le projet de construction respecte le plan local d'urbanisme. C'est pas la partie la plus simple. Vous avez le PLU, parfois vous êtes dans des zones inondables, vous avez un plan de prévention des risques d'inondation. Parfois vous êtes dans des secteurs patrimoniaux, vous avez l'avis d'un architecte des bâtiments de France. Il y a toute la partie administrative qui est relativement complexe, à laquelle il faut apporter des premiers éléments de réponse avant même de faire des demandes formelles, en fait, qui constituent plus de travail ensuite. Il y a la question, mais si je dois construire, si je me fais, par exemple, ma maison pour mes vieux jours, qui va la faire? Donc, il faut trouver la bonne entreprise, le bon constructeur, le bon architecte, les bons artisans pour le faire. Là, on va accompagner les personnes aussi pour le faire. En fait, on va faire cet accompagnement global.
C'est ce que je voulais dire, vous êtes un peu le chef d'orchestre après tout
ça. Le chef d'orchestre, ouais. Effectivement. Okay. Donc, auprès de tous les membres de la famille, il faut prendre des décisions, il faut tomber d'accord. Auprès des voisins.
Un peu de psychologie à faire, quoi.
Ouais, un peu de psychologie, de médiation. Ouais. Les voisins, il y avait 2-3 arbres au fond du jardin. Vous imaginez construire quelque chose. Forcément, ils vont se poser des questions. L'idée, c'est d'aller les voir avant qu'ils voient les panneaux administratifs sur les limites de la parcelle. Plutôt aller les voir avant que le projet soit ficelé. Quand les options sont en cours d'étude, ils ont peut-être des préférences. Il y a peut-être des scénarios qui sont moins impactants pour eux, qui leur conviendraient mieux. Et il faut organiser tout ça pour que ça se passe bien. Voilà, on est dans une forme de cohabitation spatiale. Si on rajoute une ou deux maisons, il faut que les nouveaux arrivants soient bien perçus. Et pour ça, il faut que le projet soit bien conçu, bien imaginé. Donc on va un peu pousser tous les pions qui sont nécessaires, côté administratif, côté familial, du côté des voisins, du côté du financement. C'est pas des projets hyper classiques. Une banque, quand elle voit un projet comme ça en plusieurs parties, avec la vente d'un terrain qui pourrait y financer des travaux, etc., elle va regarder la situation, les ventes. Il faut estimer la valeur de la première maison parfois si on lui enlève la moitié de son jardin. Donc là, on va aller travailler avec le notaire. Ce qu'il faut, c'est un scénario qui était pas imaginé par l'ensemble des acteurs. Il faut le rendre crédible, faisable, jusqu'à ce que les personnes aient tous les go. Pour qu'elle puisse se lancer. Et parmi les go, il y a avoir trouvé le bon maître d'œuvre, qui est en général une entreprise locale. Et donc, notre travail, c'est, je reprends l'exemple de Périgueux. Je crois qu'en 5 ans, on a travaillé avec 700 ménages, 700 familles. Il y a 250 projets qui ont abouti. Ça veut dire beaucoup de travail pour les agents immobiliers du secteur, les géomètres, les notaires, les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les architectes. 250 projets en 5 ans, ça fait une cinquantaine par an, là où on avait 3 ou 4 terrains avant qu'on intervienne. Et donc ce qu'on voit, c'est que la ville existante, elle a du potentiel de constructibilité et d'évolution. S'il y a cette forme de service qui est mise à disposition des gens au moment où ils sont dans les débuts de leur réflexion. Voilà. Et l'originalité du modèle qu'on a mis en place, qu'on met en place aujourd'hui, là, depuis 9 ans avec Vivante, c'est que ce début de réflexion, on le fait financer par la collectivité. Donc la ville de Périgueux rémunère Ville Vivante au résultat. À chaque fois qu'il y a une maison qui est autorisée, en fait, ça fait un élément de rémunération. Et pour elle, en fait, elle développe une opération d'aménagement, d'urbanisme, qu'elle n'opère pas elle-même, en fait, qu'elle fait opérer par Ville Vivante, qui lui-même n'opère pas. C'est-à-dire que nous, on n'opère pas, on fait opérer les particuliers. Et donc, plutôt que d'être dans un schéma classique où la ville devrait acheter du foncier, le dépolluer, l'aménager, définir des lots, des macro-lots et les revendre à des promoteurs pour qu'ils développent, donc plutôt que de faire soi-même ou de faire faire à des aménageurs et des promoteurs, en fait, et donc recréer des voies, des réseaux, du mobilier, de l'éclairage qu'il va falloir ensuite entretenir, éclairer, etc., la ville reste sur son infrastructure existante. Vous avez des rues qui existent, des réseaux qui existent, un système d'éclairage, des parcelles qui sont desservies. À partir de là, on va faire en sorte que certains propriétaires imaginent, trouvent les options qui leur conviennent, sécurisent les droits à bâtir, obtiennent leur permis de construire, trouvent les maîtres d'œuvre, trouvent les entrepreneurs pour faire les constructions. Et donc les gens vont opérer eux-mêmes sur leurs parcelles et vont brancher les nouvelles constructions sur la rue existante, les réseaux existants. Et donc la ville, en fait, elle va développer une opération presque invisible, donc invisible du point de vue de l'infrastructure. Donc on va brancher plus de personnes sur les mêmes voies, les mêmes réseaux. Donc on va optimiser la rentabilité financière. On va faire des économies de coûts de coûts d'entretien, de coûts de fonctionnement pour la ville. Et donc elle va se retrouver à avoir des habitants supplémentaires, des recettes fiscales supplémentaires, sans avoir à créer de nouveaux aménagements et à s'étendre et donc à augmenter ses coûts de fonctionnement. Donc elle est dans un modèle de rationalité économique et environnementale. Et donc, si elle prend conscience de son intérêt, elle se dit que si moi, je suis la ville, je finance ce service qui est le déclenchement et la sécurisation des options, qui sont des options bonnes pour les particuliers, mais aussi bonnes du point de vue de l'intérêt général pour l'urbanisme. En finançant ça, je fais des économies de fonctionnement et je fais de l'urbanisme quasiment invisible en densification douce, qui est même plus acceptable que des projets plus importants. Et le particulier, ça lui permet de répondre aux questions difficiles sans avoir à avancer de l'argent dans des études pour avoir une faisabilité réglementaire, architecturale, etc. Et lui-même à se déclencher au moment où les choses sont claires, ou les moments où ils ont pu prendre une décision en famille. Et voilà.
Mais ça veut dire que, et c'est du coup, si tu veux avoir vraiment des chefs d'orchestre localement, pour pouvoir gérer la partie administrative, autorisation, travaux, etc., etc., c'est-à-dire qu'il te faut chez Villevente des gens sur tout le territoire, non ? Pour être un spécialiste de sa région ou de son département ?
Exactement, ça reste du local. Nous, Périgueux, on l'opère depuis Bordeaux et Toulouse. Donc on est à Bordeaux, on est à 1h30 de Périgueux, on y est toutes les semaines. Et la solution que Ville Vivante a développée, c'est pas un algorithme qui donne la réponse qu'est-ce que je peux construire dans mon jardin, c'est un peu trop complexe. Ça n'arrivera pas dans les 10 prochaines années.
Impossible non, de dire, je suis un particulier, j'ai un terrain, qu'est-ce que je peux faire dessus ? C'est trop...
Pour répondre de façon ferme, non. Ouais. Il vous faut, en intelligence humaine, il vous faut plusieurs heures de travail. Okay. Et ensuite, il vous faut des échanges avec d'autres humains qui sont les personnes des services urbanisme qui vont interpréter les règles à leur façon, les élus qui vont les interpréter aussi à leur façon, et les voisins aussi qui vont faire un recours, ne pas faire un recours. Donc en fait, on est vraiment dans des règles qui sont exprimées en français, qui sont interprétées par plusieurs personnes et qui de plus sont relativement complexes, c'est-à-dire que même si elles n'étaient pas en français mais simplement en mathématiques, elles sont tellement complexes qu'on a besoin d'une intelligence humaine. Ce qui fait que tout le travail de Ville Vivante, et c'est ce qu'on a fait depuis 9 ans, c'est de créer des métiers un peu différents des métiers qui existent déjà, qui vont être capables, sans avoir à mettre 3, 4, 5 ou 6 personnes d'expertise différentes autour de la table, être capable de répondre à toutes les questions auxquelles il faut répondre pour que ces projets puissent naître et aboutir. Et donc, en fait, d'une certaine façon, c'est comme si on croisait un architecte, parce qu'il a la vision en 3D, qu'il sait qu'est-ce qu'un espace qui fonctionne bien, qui est agréable à vivre, qui est lumineux, qui est bien isolé, qui a une forme de conception bioclimatique. Donc évidemment, si on ajoute une seconde maison sur un terrain, il y a des vraies questions d'architecture qui vont se poser. Et en même temps, les règles du plan local d'urbanisme, du code civil, vont avoir sur des petits terrains comme ça un impact très fort. Donc il nous faut des gens presque juristes, hyper fins sur les règles de droit privé, les règles de droit public, en fait, pour aller trouver les solutions astucieuses, intéressantes, qui vont donner de bons espaces à vivre. Et en même temps, du point de vue financier, patrimonial, il faut être capable de comprendre la situation patrimoniale du ménage qui va porter le projet, sa relation avec sa banque, ses possibilités d'apport, ses revenus locatifs éventuels. Et donc, il va falloir aussi monter un mini projet immobilier qui fonctionne, on va dire. Et donc, on se retrouve entre une forme d'ingénierie sociale, aider les personnes à prendre une décision, une sorte de conseil en gestion de patrimoine, une sorte de travail de valorisation immobilière, c'est-à-dire quel est l'état de la demande, que recherchent les gens dans ce quartier, dans cette rue, de l'intelligence architecturale, juridique, tout ça sur le marché, dans un même cerveau, ça n'existe pas. Donc on recrée, c'est-à-dire que la distribution des rôles d'aujourd'hui, entre le notaire, le géomètre, l'agent immobilier, le constructeur, l'architecte, l'instructeur du droit des sols, cette distribution des rôles fonctionne bien pour des grands projets. En fait, un immeuble de 200 logements, en fait, la structure fonctionne. Pour ces micro-projets comme ça, sur des petits terrains, en fait, il faut rebattre les cartes et inventer des personnes polyvalentes sur l'ensemble de ces thèmes, architectural, juridique, le patrimoine. Polyvalentes, mais par contre spécialisées sur la deuxième maison dans le jardin, ou les 50 mètres carrés ou les 100 mètres carrés supplémentaires sur une petite surface, et être capable de jongler entre le patrimonial, le juridique, l'immobilier, l'architectural. Voilà, et ça, c'est
que vous les formez aussi, ces gens-là, parce qu'il doit y avoir peu de personnes qui aient autant de compétences sur autant de sujets très différents.
Et c'est clairement des gens qu'on embauche qui ont une formation initiale d'architecte ou dans l'immobilier, ou plutôt dans la construction, et on va ajouter les autres dimensions à leur savoir-faire. On a effectué ces dernières années un gros travail de modélisation des connaissances qui sont nécessaires, qu'on doit pouvoir maîtriser si on doit pouvoir montrer aux habitants les options qui se présentent sur leur jardin. Ces options, en fait, elles sont architecturales, immobilières, juridiques, réglementaires. On est sur de la haute précision, voilà. Et clairement, ce sont des métiers qui sont plus techniques que les métiers traditionnels qu'on trouve.
Ouais. Voilà. Donc, tu disais tout à l'heure que c'est plutôt l'initiative au départ, en tout cas des mairies. Moi, si je suis particulier demain, je peux quand même venir vous voir pour faire une consultation. Je peux passer en direct avec vous.
Ouais. Jusqu'ici, on a développé des modèles où, à partir du moment où nous, on avait un partenariat avec une ville, on déployait le service sur ce périmètre, dans une ville ou dans une agglomération. On l'a testé à Périgueux, en Bourgogne, dans l'agglomération du Creusot-Monceau, dans les Vosges autour d'Épinal, en Bretagne, du côté de Vitré. Dans d'autres territoires, on a une dizaine de territoires comme ça dans lesquels on est en train de créer ce modèle d'opération, avec un périmètre, des objectifs quantitatifs à la fin. À Périgueux, 250 logements en 5 ans, c'est une opération à l'échelle ville, quelque part. Ce modèle fonctionne bien parce que les particuliers, en fait, accèdent à un service fluide, gratuit, immédiat, en fait, sans avoir à se poser de questions, et se posent les questions de ce qu'ils vont devoir faire, de ce qu'ils vont devoir eux-mêmes financer, faire plus tard. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce modèle, où c'est la ville, finalement, qui finance ce service, il marche bien dans les territoires qui sont détendus, dans les territoires qui sont moyennement tendus. Pourquoi ? Parce que dans ces secteurs-là, le maire peut expliquer à sa population les efforts qu'il va devoir faire pour augmenter les possibilités de construction. Il va expliquer à sa population que pour maintenir les salles de classe en école primaire, au collège, il faut qu'il y ait des familles qui arrivent. Pour que ces familles qui arrivent, il faut qu'elles aient des possibilités de venir habiter. Donc il faut des terrains, donc il faut de la possibilité de construire. On s'est aperçu que dans les territoires plus tendus, on va prendre l'Île-de-France, où on prend la métropole de Lyon, la métropole de Bordeaux, celle de Toulouse, celle de Montpellier, celle de Rennes, celle de Nantes, donc des territoires où il y a vraiment un solde migrateur relativement important, beaucoup de personnes qui migrent vers ces territoires pour des questions d'emploi en général ou de cadre de vie sur la côte ouest par exemple. Il y a déjà cette croissance urbaine que les élus au niveau municipal, ont déjà du mal un peu à absorber en termes d'équipement, en termes de, il faut que la construction des écoles suive, il faut que l'ensemble des équipements de la ville en fait suivent l'augmentation de la population. Vous avez aussi une forme d'acceptabilité sociale de l'accueil des nouveaux arrivants qui est pas évidente. On a des programmes de densification forte qui sont parfois un peu perçus de façon brutale par les riverains. Ils voient leur ville changer, ils se demandent pourquoi on construit encore et encore. Et en fait, on est dans des secteurs où ces 10 dernières années, l'acceptabilité des nouvelles constructions a chuté. Et donc, on se retrouve paradoxalement dans les territoires où on a vraiment un besoin important de logement, là où on a une forme de pénurie, les prix de l'immobilier ont monté, deviennent même inaccessibles pour une bonne partie des personnes de ce territoire. Dans ces territoires-là, paradoxalement, on a un besoin qui est très fort, et en même temps, on a une population qui n'en peut plus et qui ne supporte plus les nouvelles constructions. Et on a des élus qui ont dû suivre les avis de leurs habitants, qui les ont élus très souvent. En 2020, on a vu beaucoup d'élections municipales qui se sont jouées sur la baisse des constructions. Donc les élus suivent, ils sont élus pour ça. Et donc ils ne sont plus en position politique d'expliquer pourquoi ils vont aller porter un programme de densification, un programme qui favorise les constructions neuves, notamment dans les jardins, un petit peu dans tous les quartiers. Et donc c'était déjà le cas au moment des élections municipales de 2014, relativement inquiétant. En 2020, c'est encore plus le cas. On a dans certaines grandes villes, je pense à Bordeaux par exemple, où clairement le maire qui a été choisi, c'est celui qui a proposé de ralentir très fortement les constructions. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans ces territoires-là, le portage de la politique de densification par la collectivité elle-même, il va être moins facile. Et donc Ville Vivante est en train de, en 2022, là, de lancer un service directement accessible aux particuliers dans ces secteurs tendus. Donc on a appris une jauge un peu basique, qui est dans tous les secteurs où le prix de l'immobilier dans l'ancien est supérieur à 3000 euros. C'est-à-dire qu'on est, pour une maison de 5 mètres carrés, on est au-dessus du budget de la plupart, de plus de la moitié de la population. Ces prix dans l'ancien sont à plus de 3000 euros, ça veut dire qu'en fait, l'offre est insuffisante, la demande est supérieure. On est dans ces situations tendues. En fait, on va nous-mêmes proposer directement aux propriétaires d'une maison avec jardin, en fait, d'opérer, et en fait, c'est le nouvel arrivant, l'acquéreur, en fait, qui va financer tout le service à travers la valeur du terrain, tout simplement.
Ok. Bon, je vois que le temps passe très vite, hein, c'est passionnant, mais du coup, si on veut faire un espèce d'appel aujourd'hui, on pourrait dire d'un côté, on fait un appel aux collectivités, aux mairies, pour leur dire, au lieu de construire autour, il y a une solution, en fait, qui existe, qui est dans vos villes, on peut quand même construire. Donc, premier appel à ceux qui sont dans cette situation-là, qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir Ville Vivante pour peut-être d'autres idées auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et pour le particulier, lui, c'est trouver une solution, comme tu disais, familiale, financière ou autre, pour dire, vous avez du foncier, le foncier a une vraie valeur au-delà de la finance, une vraie valeur aussi d'organisation de la ville, pour pouvoir être transformé, réhabilité ou scindé ou déménager en face, etc. Donc en tout cas, voilà, on a bien compris, les villes peuvent optimiser et attirer plus de personnes pour développer leur ville, et les particuliers peuvent optimiser leur patrimoine immobilier à eux avec d'autres solutions ou d'autres avec toute cette ingénierie que vous avez chez vous. Et juste pour conclure, est-ce que tu as un peu un message à faire passer aussi autant aux mairies qu'aux particuliers pour qu'ils puissent venir vous voir?
Je leur dis, il faut agir vite, il faut agir tout de suite. Sortir du foncier, ça prend un peu de temps. Une ville qui se lance dans une opération Bimby, en 12-24 mois, elle peut avoir des premiers résultats. C'est-à-dire qu'il y a plein de particuliers qui sont prêts à réfléchir à ces solutions. Et pour les particuliers qui vivent dans les zones tendues, qui ont une maison, un bout de jardin, et qui se posent la question de savoir en fait ce qu'ils pourraient en faire dessus, le service s'ouvre au mois de mai. Vous allez sur wimby.co, W-I-M-B-Y, deux fois, .co, et nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à mener à bien vos projets sur les fonciers qui vous appartiennent.
Super, ben le message est passé. En tout cas, bravo pour ce concept qui paraît en plus assez évident, de se dire qu'en fait la solution on l'a, En fait, elle existe déjà, elle est déjà dans les villes. Super, David, bah, écoute, merci d'être venu nous parler de tout ça, de Ville Vivante. Bravo à toute l'équipe, hein, je crois que vous êtes assez nombreux maintenant et un peu partout. On souhaite que ça se développe partout pour que tout le monde puisse en bénéficier dans sa ville. Merci d'être passé, puis je vous encourage tous à aller sur Ville Vivante, que vous soyez du côté mairie, du côté particulier, pour voir ce que vous pouvez faire des fonciers de votre ville ou vos propres fonciers. Salut, bon retour, David, merci.
Merci.
L'immobilier dans le bon sens, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.